Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grodidier avec vous, en compagnie d'Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Quelques titres tout d'abord. À Accra, les ministres de la Santé des pays d'Afrique de l'Ouest se sont mis d'accord sur une série de mesures pour enrayer la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola.
Cette réunion a permis d'être très pragmatique pour les ministres de la Santé qui étaient présents, d'avoir partagé les expériences de ceux qui, comme la République démocratique du Congo, a connu à 7 reprises l'épidémie à virus Ebola.
On entendra la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de Côte d'Ivoire, le docteur Raymond Goudou Kofi. 5 personnes ont été tuées jeudi au Caire à l'occasion du premier anniversaire du renversement du président islamiste Mohamed Morsi.
Des milliers d'Égyptiens opposés à ce putsch, des militaires ont participé, selon des témoins, à de rares manifestations tenues dans des villes et localités à travers l'Égypte.
Michel Joseph fera le point et puis ces jours de fête nationale ici aux États-Unis. À l'occasion du 4 juillet, une journée troublée par l'ouragan Arthur sur la côte est du pays. Mais tout d'abord, le journal sur la voie de l'Amérique. Les pays africains ont donné jeudi 6 mois de plus aux forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, pour se rendre et désarmer volontairement. La décision a été annoncée au terme d'un sommet des pays des Grands Lacs et de l'Afrique australe à Luanda en Angola.
Les FDLR, qui opèrent dans l'est de la République démocratique du Congo depuis la fin du génocide au Rwanda, sont régulièrement accusés des pires violations des droits de l'homme. Le démantèlement de la milice donnerait l'espoir d'une plus grande stabilité à la frontière entre le Rwanda et la RDC.
Au terme d'une réunion de 2 jours à Accra au Ghana sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, les ministres de la santé des pays d'Afrique de l'Ouest se sont mis d'accord sur une série de mesures pour enrayer à la propagation de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans leur communiqué, les ministres ont exprimé leurs préoccupations sur l'impact social et économique de l'épidémie et ils ont souligné la nécessité de renforcer la collaboration transfrontalière pour la juguler.
L'ampleur de l'épidémie qui sévit aujourd'hui en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria est sans précédent, a dit l'OMS dans un communiqué. Elle va mettre en place un centre de contrôle régional en Guinée qui agira comme plateforme de coordination pour les pays d'Afrique de l'Ouest.
Selon l'ONU, des milliers d'enfants sont recrutés et utilisés comme combattants, tués, blessés, agressés sexuellement dans 23 zones de conflit à travers le monde. Le point avec Nathalie Barche.
Dans un nouveau rapport, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Leila Zerougui, indique que son bureau a recensé des cas d'enfants recrutés et utilisés comme soldats par 8 armées nationales et 51 groupes armés dans l'année écoulée. Elle met en exergue les violations graves des droits humains dont ils sont victimes, notamment la mutilation, la violence sexuelle et les attaques contre les écoles et les hôpitaux. Certaines des situations les plus graves sont signalées en Syrie, en Irak, au Nigeria et au Soudan du Sud. En Syrie, où la guerre civile entre dans sa 4e année, l'ONU estime que plus de 10 000 enfants ont été tués. Madame Zerougui souligne que son bureau a documenté des violations massives et graves contre les enfants par les groupes armés qui continuent de violer des filles et de cibler des écoles. Les groupes terroristes en Afrique sont également responsables d'attaques sur les enfants, notamment au Nigeria où Boko Haram a enlevé de nombreuses filles et utilise dans ses rangs des enfants de 12 ans. Même constat au Soudan du Sud, tous les groupes armés y utilisent des enfants. Une bonne note cependant pour le Tchad qui a été retiré cette année de la liste de l'ONU sur l'utilisation des enfants dans les combats.
L'armée américaine a reconnu avoir renforcé sa présence en Somalie pour aider les forces gouvernementales et africaines dans leur combat contre les insurgés islamistes. Cette confirmation fait suite à une révélation de l'agence Reuters, Jean-Roger Bion.
C'est un porte-parole du commandement africain des forces américaines, Benjamin Benson, qui a confirmé ce qui n'était jusque-là qu'une rumeur, à savoir qu'un nombre limité d'instructeurs et de conseillers et une petite cellule militaire de coordination sont en Somalie pour soutenir l'Union africaine et les forces de sécurité somaliennes. L'agence de presse Reuters, citant un responsable militaire, avait évalué à 120 le nombre de militaires américains sur le terrain à travers la Somalie et elle avait ajouté que l'armée américaine a maintenu en secret des soldats en Somalie depuis 2007. Le commandement pour l'Afrique a seulement reconnu la présence militaire américaine en Somalie en janvier dernier, avouant qu'il avait récemment mis en place une unité de conseillers dans le pays qui comptait moins de 5 militaires.
L'ambassade des États-Unis en Ouganda a lancé un avertissement jeudi contre une menace spécifique d'attaque terroriste contre l'aéroport international d'Entebbe, près de la capitale, Kampala. L'ambassade a affirmé avoir été informée par la police ougandaise qu'une telle attaque pourrait intervenir entre 21h et 23h, heure locale. Les autorités ougandaises ont dit avoir pris des mesures, les mesures nécessaires pour neutraliser cette menace.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aujourd'hui, 4 juillet, les Américains célèbrent leur fête nationale, l'anniversaire de leur accession à l'indépendance en 1776. Toutefois, sur la côte est des États-Unis, les festivités ont été remises en question par l'ouragan Arthur qui remonte la côte depuis mercredi.
Jeudi, l'ouragan est resté situé dans la catégorie 1 de l'échelle de Saffir-Simpson en raison de vents inférieur à 153 km/h, mais selon le Centre national des ouragans à Miami, Arthur est passé en catégorie 2 près des côtes de la Caroline du Nord, région hautement touristique. À cette époque de l'année, les Américains gagnant par millions les plages.
Au Caire, 5 personnes ont été tuées hier dans des incidents séparés, dont l'explosion d'une bombe et des accrochages avec les forces de sécurité. C'était à l'occasion du premier anniversaire du renversement du président islamiste Mohamed Morsi. Les précisions de Michel Joseph.
Des milliers d'Égyptiens opposés à ce putsch, des militaires ont participé, selon des témoins, à de rares manifestations tenues dans des villes et localités à travers l'Égypte. La participation à de précédentes était plus faible en raison d'une nouvelle loi exigeant une approbation préalable des autorités. Au Caire, les mesures de sécurité ont été renforcées, particulièrement à la place Tahrir, dont l'accès a été bloqué par des véhicules blindés. Depuis la chute de Morsi, son mouvement des frères musulmans a été déclaré organisation terroriste et des milliers d'islamistes incarcérés et accusés de terrorisme et d'actes de violence. Parallèlement, des militants islamistes ont intensifié leurs attaques contre les forces de sécurité.
L'armée israélienne a massé des renforts le long de la frontière avec la bande de Gaza après une augmentation de tirs de roquettes depuis le territoire palestinien. L'aviation israélienne a frappé des cibles dans la bande de Gaza jeudi alors que les militants continuaient de tirer des roquettes sur le sud d'Israël. La tension reste très vive suite au meurtre d'un adolescent arabe de Jérusalem-Est qui, pense-t-on, aurait été tué pour venger l'assassinat de 3 jeunes Israéliens. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenté de calmer le jeu, condamnant sans équivoque le meurtre du jeune Palestinien.
Une adolescente du Colorado est accusée de tentative d'assistance à l'État islamique en Irak et au Levant, le groupe terroriste qui se bat en Irak et en Syrie. Claire Morin-Gibourg.
Selon le FBI, Shannon Maureen Conley, 19 ans, avait été interpellée en avril à l'aéroport international de Denver alors qu'elle essayait de prendre l'avion pour la Turquie. Pour ne pas compromettre l'enquête, il a été décidé de ne rien dire sur ce cas jusqu'à cette semaine. Conley a rencontré sur Internet un musulman qui s'est dit djihadiste et soldat de l'État islamique en Irak et au Levant. Quand elle a dit à ses parents qu'elle voulait se rendre en Syrie pour épouser l'homme, ils ont catégoriquement refusé. En réponse à des questions du FBI, Shannon Maureen Conley a déclaré qu'elle voulait, en tant que musulmane, faire le djihad à l'étranger. Si on ne lui permettait pas de participer au combat, elle envisageait d'utiliser sa formation d'infirmière assistante pour aider les combattants du groupe. A signalé qu'un gardien d'une église de la ville d'Arvada, où elle habitait, avait aussi contacté la police quand Conley a été vu tourner autour du campus de l'église en train de prendre des notes, ce qui avait fait craindre la préparation d'un attentat.
Merci Anna Robertson, au micro Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Il est 6h09 temps universel. Les ministres de la Santé de 11 pays ouest-africains ont achevé jeudi leur réunion d'urgence sur les mesures à adopter pour contrer la pire épidémie de fièvre Ebola de l'histoire. Au sortir de la rencontre qui a eu lieu pendant 2 jours à Accra, la capitale du Ghana. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de Côte d'Ivoire a fait le point. On écoute la docteure Raymonde Goudou Kofi.
L'OMS, le gouvernement et les partenaires ont réfléchi pendant 2 jours sur d'abord le renforcement de ce qui est fait déjà sur place par rapport à la non-propagation du virus Ebola. Et pour les pays comme les nôtres qui n'ont pas été touchés par le virus Ebola mais qui partageons des frontières communes avec ces pays, quelles sont les différentes étapes obligatoires par lesquelles nous devons passer pour contenir éventuellement l'épidémie et quelles sont les mesures préventives pour justement éviter la rentrée du virus Ebola dans le pays, plus particulièrement en Côte d'Ivoire.
Alors, l'éventualité d'un vaccin controversé vous a été proposée selon ce qu'on a entendu. Que faut-il retenir sur le sujet?
Non, nous n'avons pas parlé de vaccin particulièrement. On a seulement précisé qu'il n'y a pas de traitement pour l'heure et qu'il y a des mesures à prendre immédiatement pour contenir donc l'épidémie. Entre autres, l'hygiène des mains. Après avoir écouté le ministre du Congo, on s'est rendu compte que cette option est une des meilleures. Ensuite, on a mis l'accent sur le fait qu'on doit rendre disponibles les médicaments pour que si d'aventure il y a des cas qui sont confirmés, on puisse immédiatement donner la riposte. Nous avons également parlé d'une chose essentielle, c'est le financement. Sans financement, on s'essouffle et évidemment, on n'arrive pas à avoir les moyens de répondre donc à la demande pressante. Donc un centre va être ouvert par l'OMS en Guinée pour coordonner toutes les activités et mettre en place cette stratégie. De réponse.
Alors la question de l'implication des chefferies locales dans la sensibilisation aurait été l'objet d'une adresse particulière de la part des ministres?
Cette réunion a permis d'être très pragmatique pour les ministres de la Santé qui étaient présents, d'avoir partagé les expériences de ceux qui, comme la République démocratique du Congo, a connu à 7 reprises l'épidémie à virus Ebola et les pays qui sont frontaliers. Ces stratégies-là doivent nous permettre de travailler ensemble, de gérer la migration transfrontalière. Nos frontières sont extrêmement poreuses et ce que tous les pays ont décidé de faire, c'est de renforcer, n'est-ce pas, l'alerte aux frontières, de renforcer les zones de cantonnement et puis, bien sûr, de surtout former, informer, faire passer des messages et bien communiquer.
Le docteur Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Santé de Côte d'Ivoire, elle était jointe à Accra par Jean-Roger Bion.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui. La présence de différentes missions militaires des Nations Unies en Afrique interpelle certains Africains. Ils étaient réunis à Goma dans un colloque international et ils se sont concertés autour des interventions militaires en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, Mali, Nigeria, RDC, Somalie et au Soudan du Sud. Le point avec notre correspondant à Goma, Primo Pascal Rudaigua.
Notre maladie, c'est toujours voir l'autre. Moi, je crois qu'à tous les niveaux, il y a des responsabilités.
C'est dans cette ambiance d'analyse et des réflexions que les participants au colloque international sur les interventions militaires en Afrique discutent entre eux depuis mardi à l'hôtel Ihoussi de Goma. Les problèmes africains en général, l'ingérence des Occidentaux dans la gestion de l'Afrique, les interventions médiatiques internationales et autres formes de récupération des crises africaines constituent les grandes articulations de cette rencontre. Madame Félicité Kongana est membre du Conseil national de transition de la République centrafricaine.
La situation est extrêmement difficile. Beaucoup de violences, beaucoup d'exactions, de crimes, de viols. Cette histoire de guerre, il n'y a que nous les Africains qui pouvons régler ça, puisqu'il n'y a pas de solution si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience de notre situation et de nos difficultés.
Diakali Ouattara de la société civile de la Côte d'Ivoire parle des perspectives amorcées pour la stabilisation de son pays.
Il y a une conscientisation des uns et des autres parce que si la population est bien éduquée, bien sensibilisée, elle ne peut pas être l'appât des partis politiques ou des leaders politiques. Je crois que ce travail-là, c'est au niveau de la plateforme de la société civile qui avait initié en son temps les journées de consensus national, qui a réuni pratiquement tout le corps social pour réfléchir à comment faire en sorte que nous ne retombions pas dans la crise. Je crois que ça, ce sont des actions que nous encourageons. Mais il faut reconnaître aussi que cela n'est pas facile parce que parfois on a l'impression que le pouvoir Ouattara aussi ne fait pas assez en termes de liberté d'expression.
Les actes de ce colloque devront être transmis aux différents gouvernements africains et au Conseil de sécurité des Nations Unies, explique Juvenal Emunubo, député national de la République démocratique du Congo.
Les idées générées par cet atelier pourraient pourquoi pas être partagées avec les sous-secrétaires d'État en charge des opérations de maintien de la paix. On n'a pas ici au Congo la situation comme celle de la Centrafrique où un pays a envoyé ses militaires sans passer par un mécanisme onusien. Nous avons aussi la brigade d'intervention qui est là et les idées pour qu'on en arrive ont été échangées au niveau de la CIRGL et de l'OIA.
Ce quatrième colloque international est organisé par Paul Institute. Il regroupe des chercheurs, des professeurs d'université, des politiciens, des responsables des organisations de la société civile, des consultants internationaux, des journalistes, des fonctionnaires de l'État et des Nations Unies venus des différents continents. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique.
Aujourd'hui, au micro Camille Grosdidier, au Nigeria, le gouvernement assure qu'il fait des progrès dans la recherche et la libération éventuelle de plus de 200 lycéennes enlevées par les extrémistes islamistes de Boko Haram en avril dernier. Chérubin Dorsil.
Le porte-parole gouvernemental, Mike Omeri, n'a pas vraiment convaincu quand il a déclaré cette semaine. Un des indicateurs de Boko Haram, un de ses principaux commandants qui lui fournissent des infos, a été arrêté. Donc, quelque chose est en train d'être fait. Nous nous rapprochons de notre objectif, a affirmé M. Omeri. Il faisait sans doute allusion à l'annonce de l'armée nigériane selon laquelle elle avait démantelé une cellule de renseignement composée de femmes et dirigée par un homme d'affaires qui a participé activement au rapt de Chibok. Selon l'AFP, l'homme d'affaires identifié comme Babouji Yari, qui a également fait partie d'une association de jeunes ayant collaboré avec les militaires et désigné par le nom de Force supplétive civile d'intervention, aurait masqué par cette activité son soutien à Boko Haram. Le porte-parole Omeri a demandé aux détracteurs du gouvernement nigérian d'appuyer plutôt les forces de sécurité qui s'évertuent à libérer les jeunes filles aux mains de Boko Haram. Mais Bashiru Youssouf, un porte-parole du groupe d'activistes qui n'a cessé de fustiger les efforts des autorités nigérianes depuis le rapt, souligne que la vigilance reste de rigueur tant que les lycéennes ne sont pas libres. Tout le monde ici a décidé de venir sur place tous les jours, malgré les préoccupations sécuritaires, parce que nous sommes conscients que la dissolution de ce mouvement sera le jour le plus triste pour ces filles en captivité. À cause d'elles, nous avons décidé de risquer nos vies en venant ici chaque jour et de manifester pour elles. Le gouvernement nigérian, qui affirme savoir où sont détenues les lycéennes, a dit que monter une opération de sauvetage pourrait causer leur mort. Il ne donnera des informations supplémentaires, ajoute-t-il, que si c'est dans l'intérêt du public et si ça ne risque pas de compromettre de futures enquêtes. On reproche à Boko Haram la mort de milliers de personnes depuis le début de son insurrection, il y a 5 ans, pour l'instauration d'un État islamique au Nigeria.
Temps universel, on enchaîne avec la Côte d'Ivoire, et bien avec la saison des pluies à Abidjan et sous les eaux. Les météorologues prévoient encore de fortes pluies dans les semaines à venir, d'où la crainte des populations de la capitale économique ivoirienne. Germaine Dré, notre correspondant à Abidjan, les a rencontrés, on l'écoute.
Il ne se passe pas de jour sans pluie à Abidjan depuis début juin. Au commencement, ce sont les quartiers précaires qui étaient en danger. Aujourd'hui, l'on assiste à des inondations et écroulement d'immeubles dans toutes les communes du district. Une situation qui rend anxieux les Abidjanais. Guizon Marcelin.
Ça me fait peur parce qu'on a vraiment des problèmes. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. En fait, quand il pleut, quand l'eau vient, ça vient directement sur les maisons. Les caniveaux, tout est bouché.
La nuit, quand tu ne peux pas te coucher, et la maison tombe sur vous. Les affaires comme ça, c'est qu'on est bien équité à Abidjan. Allez, rester à Yamsokro, à Toumodi. Ici, Abidjan meurt. Vous mettez à l'eau village, restez là-bas.
Cette peur est justifiée car le directeur de la météorologie nationale, Konaté Daouda, a indiqué à la télévision ivoirienne que 600 mètres de pluie étaient attendus cette année. Mais à ce jour, ce sont 680 mm qui sont tombés et que les Ivoiriens doivent encore s'attendre à des fortes pluies. Devant cette affirmation, les inquiétudes des habitants s'amplifient chaque jour et demandent à l'État d'intervenir. Kwasi Alain.
J'aimerais que l'État fasse quelque chose pour pouvoir dédommager un peu ceux qui ont perdu les biens et à les installer confortablement, les trouver autre abri.
Goyer Josué, Anne Stéphane, on est fatigué de ça. Quelle situation, quelle affaire? Tu veux sortir, voilà la pluie. Tu veux faire telle affaire, voilà la pluie. Tu veux rentrer ici, voilà la pluie. Ça rentre dans nos tôles, sur nos lits. Nos affaires sont inondées partout dans la maison, partout dans le quartier.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Et on enchaîne avec les sports. On retrouve le journal de la Coupe du Monde présenté depuis Fortaleza par Nicolas Pino, envoyé spécial de la VOA au Brésil.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil. Le Brésil face à son destin, ici, à Fortaleza. La France et l'Allemagne, elles s'affrontent au Maracana. Début ce vendredi des quarts de finale de la Coupe du Monde, à 20h, temps universel, la Seleção affronte la Colombie. Le pays organisateur doit faire attention. 6 joueurs brésiliens, dont Neymar et Thiago Silva, sont sous le coup d'une suspension pour une éventuelle demi-finale s'ils reçoivent un nouveau carton jaune lors de ce quart de finale. Le Brésil a généralement beaucoup de fans à travers l'Afrique, mais au Burkina Faso, le public est partagé entre une Colombie séduisante et le Brésil du roi Pelé. Reportage à Ouagadougou de Salif Kabori.
Si le Brésil détient jusqu'à présent le record de titres de champion du monde, celui de 2014 semble très difficile pour la Seleção, car selon cet observateur, la Colombie est favorite.
Je dirais que c'est déjà une finale avant la lettre, parce que le fait que le Brésil et la Colombie viennent du même sous-continent, c'est-à-dire l'Amérique latine, c'est déjà une finale avant la lettre. Vu le parcours de la Colombie depuis les phases finales jusqu'à ces quarts de finale-là, je pense que la Colombie a déjà un avantage psychologique sur le Brésil. Parce que le Brésil, c'est vrai, c'est un pays organisateur, mais il y a une pression, il y a la pression du public déjà qui joue en sa défaveur. C'est vrai que tout le monde a parié sur le Brésil, mais moi, à mon sens, je trouve que le Brésil est sous pression et la Colombie a beaucoup, beaucoup de chances de remporter ce match-là.
De l'autre côté, le match sera certes chaud, mais Neymar et ses camarades sortiront victorieux.
Mon analyse déjà, c'est que ça sera un match chaud, 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 chaud. Un quart de finale à ne pas rater. Parce que c'est deux pays d'Amérique du Sud qui se connaissent. Et la Colombie est une équipe très vive qui a fait un bon parcours avec de bons joueurs. Le Brésil est le pays organisateur et ils ne voulons pas laisser passer leur chance. Donc ils mettront le tout pour le tout. C'est vrai qu'il y a une grosse pression sur leurs épaules, mais c'est le pays organisateur. Je pense que c'est un match à suivre parce qu'actuellement, il n'y a pas d'une équipe dominatrice qui va venir dominer une autre et puis repartir. Non, je pense que le football mondial s'équilibre un peu plus. Donc rendez-vous est pris pour ce quart de finale.
Ils sont d'ailleurs nombreux ici à vanter la Colombie au regard de son parcours déjà réalisé dans ce mondial.
Une redoutable équipe la Colombie, il faut le dire. Souvent ces équipes de l'Amérique centrale, l'Amérique latine, on connaît peut-être quelques stars qui nous révèlent un très beau football.
Et les pronostics confirment ces points de vue divergents.
Je dirais 1-0 pour le Brésil.
2-1 à faveur de la Colombie.
Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Autre rencontre tout à l'heure à Rio, la France face à l'Allemagne pour une répétition des matchs de 1982 et 1986 en phase finale de Coupe du Monde. Écoutons le coup de sifflet de Jules Valentin Gouet qui nous parle de la Mannschaft, l'équipe allemande que la France devrait battre si elle veut aller en demi-finale.
We celebrate the best African football.
Bonjour. L'Allemagne que la France rencontre en quart de finale de la Coupe du Monde de football est tout simplement une institution du football européen et mondial. Toujours présente et toujours placée, l'Allemagne aligne 18 participations sur 20 possibles et 3 titres en Coupe du Monde, autant en Coupe d'Europe des Nations, plus 4 places mondiales de second et 4 demi-finales, tout simplement colossales. Les recettes de l'Allemagne ont de tout temps été les mêmes. Les joueurs germaniques voyageant peu ou tard, La sélection est bâtie sur l'ossature du club phare qui, depuis quelques décennies, est le Bayern Munich. Des individualités complémentaires venant se greffer sur ce noyau dur garantissent à l'ensemble, le collectif, l'esprit d'équipe, la discipline de jeu pour un objectif commun, des qualités indispensables pour aller loin ou s'imposer. Or, la Mannschaft présente au Brésil en ce moment a en plus profité de circonstances qui ont amélioré sa qualité. Une politique tardive mais réussie de formation a produit une pléthore de joueurs de qualité et rehaussé le niveau de la Bundesliga pour le grand bien des clubs phares et de l'équipe nationale avec en prime la même philosophie de jeu. Alors l'Allemagne a incontestablement aujourd'hui l'occasion de dépoussiérer ses trophées devenus trop vieux et cela passe avant tout par une victoire contre la France comme au bon vieux temps. À bientôt.
Cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela.
En bref, sachez que la police brésilienne a indiqué qu'un membre de la FIFA était soupçonné d'être à l'origine d'un trafic de billets portant sur des sommes considérables et ce depuis 4 Coupes du Monde. Selon le quotidien Odia, ce système de revente a permis de générer plus de 70 millions d'euros sur les 4 dernières Coupes du Monde. Selon la police de Rio, un membre de la FIFA qui se trouve actuellement à Rio fournirait des billets originellement destinés à des partenaires et des fédérations à un intermédiaire résident à Dubaï qui les vendrait sur le site Match Hospitality. Et puis autre information pour les cardiaques, sachez qu'une équipe de chercheurs allemands vient de démontrer que le nombre de crises cardiaques augmentait significativement lors des rencontres de la Coupe du Monde en comparant les données des urgences en Allemagne entre les jours où la Mannschaft jouait en 2006 et les jours sans Coupe du Monde. Les chercheurs ont découvert que le nombre d'accidents cardiovasculaires était multiplié par 2,7 les jours de match et même par 3,3 pour les hommes. Le pic était même atteint lors des matchs les plus tendus, comme lorsque l'Allemagne avait éliminé l'Argentine au tir au but. 5 fois plus d'accidents. On va donc souhaiter aux Allemands que le match de ce soir n'aille pas en prolongation. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde préparé par Bagassikoura et Nicolas Pinault. Camille et tous les fidèles de la Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com. À ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde. Je vous retrouve depuis Fortaleza et encore une fois, Happy 4th of July, joyeuse fête de l'indépendance américaine.
Et en ce jour de fête nationale ici aux États-Unis, je vous propose America the Beautiful de Ray Charles.
Singing something like this. Listen here.
Oh, beautiful, far spacious skies, far amber waves of grain, far purple mountain majesties.
Il faut laisser Ray Charles et dire merci à Anne Albertson au micro, Camille Grosdidier sur la Voix de l'Amérique et merci à vous de nous avoir accompagnés ce matin. Une très bonne journée.
God done shed his grace on thee.
les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.